Eh bien, on veut vous souhaiter la bienvenue. On ne sait pas si c'est la première fois que vous nous visitez, mais c'est vraiment agréable de vous voir ce matin. Si jamais vous nous écoutez par Internet, alors on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. Gênez-vous pas de nous faire signe. Vous pouvez nous envoyer un courriel. Et puis, il y a peut-être des gens, vous êtes ici, vous voulez savoir un peu ce qu'on fait ici à l'Église. On a toutes sortes de ministères, on a des groupes pour les femmes, les hommes. On a un déjeuner samedi prochain avec les hommes. On a la jeunesse, des groupes paradoxes avec des jeunes. Il y a beaucoup de choses qui se fait ici. Donc, ça nous ferait plaisir. Vous avez juste à vous rendre au kiosque, donner votre nom, puis on va essayer de vous expliquer un peu ce qu'on fait ici. Alors, vous savez, l'humilité est une belle qualité qu'on retrouve dans la Bible. Ça a perdu un peu de sa popularité au fil des années, mais il y a un regain de cette vertu-là. Elle revient en popularité au niveau des affaires, du milieu des affaires. J'ai lu un article vraiment intéressant qui vient de sortir il y a à peine un mois et demi dans le Wall Street Journal, intitulé « The Case for Humble Executives ». Alors, les raisons pour avoir des cadres d'entreprise humbles. Selon le journal, la dernière mode chez les cadres d'entreprise de haut niveau s'appelle l'humilité. L'article explore les avantages commerciaux de cette vertu qui, autrefois, a vraiment perdu de sa popularité. Voici ce que dit l'article. Parmi les cadres, l'humilité est la saveur du jour, dit Fred Hansen, ancien PDG de la compagnie Sharon Plow Corporation et auteur d'un livre sur le leadership. Les entreprises, dit-il, apprécient de plus en plus les dirigeants d'entreprise qui sont humbles, car ils écoutent, ils reconnaissent leurs erreurs et ils partagent la célébrité, rapportent les coachs et recruteurs professionnels. Le modèle de serviteur-leader favorise la collaboration, selon le directeur général de la maison de recrutement de cadre, Dale Jones. Mais il y a un problème, toutefois, dit-il, avec l'humilité chez les dirigeants. Tu dois être vraiment humble. Apparemment, plusieurs font semblant d'être humbles pour avoir des promotions. Ça s'appelle les humbles imposteurs. Comme l'ancien PDG de Krispy Kreme, dit l'article, la compagnie des beignes, vous savez, c'est tellement bon, les beignes, Krispy Kreme. Alors, selon un observateur, il prenait la vedette, semble-t-il. Il ne comprenait pas l'humilité. Lorsque les dirigeants ont découvert, en fait, qu'il faisait semblant d'être humble, le comité exécutif l'ont mis dehors. Comme le dit un expert d'entreprise, si tu dois imiter l'humilité, ça ne fonctionnera pas. Imiter l'humilité. Tu es humble ou tu ne l'es pas. Quand on s'arrête pour regarder l'incarnation, comme on est en train de faire, cette série, on est en train de regarder l'incarnation de Jésus-Christ, une des choses qui ressort très fort, c'est l'humilité de Jésus-Christ. Et on va voir ce matin, on va prendre l'histoire où un ange, pas n'importe qui, l'ange Gabriel, qu'on voit pas très souvent dans les Écritures, mais quand on le voit, c'est pour qu'il annonce, il vient annoncer quelque chose de gros. Par exemple, on le voit juste avant l'histoire que nous allons prendre, lorsqu'il va rencontrer Zacharie pour lui annoncer, lui et sa femme, il va lui annoncer que Jean-Baptiste va naître, un miracle. Et il sera le messager, c'est lui qui va préparer la voie de l'arrivée du Messie. Ça faisait quelques centaines d'années où c'était tranquille, c'était le silence entre la période de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Jean-Baptiste fait surface et il va raviver. Là, on peut pas effacer ça de l'Internet, on est foutu. C'est là. Jean-Baptiste arrive et il va raviver finalement l'attente messianique qui avait été perdue pendant des siècles. Ça faisait plusieurs années. C'était comme mort dans cette période tranquille entre les deux testaments. On voit l'ange Gabriel aussi apparaître 500 années plus tôt avec Daniel, le prophète Daniel. Et là, on va voir aujourd'hui, lorsque l'ange Gabriel va se présenter devant Marie. Et Marie, qui était une femme très simple, l'ange apparaît dans cette ville, une ville inconnue en fait, la ville de Nazareth. Ce n'est pas vraiment une ville populaire, comme on va voir un peu plus loin. Et ce qu'on va voir, c'est que lorsque l'ange se présente à Marie, il va faire 4 révélations sur Jésus, sur cet enfant qui va naître miraculeusement, le miracle de l'incarnation. Il va révéler son humanité, sa fidélité, sa liberté et sa divinité. Alors, on prend l'histoire dans Luc, chapitre 1, le premier chapitre de Luc, si vous voulez bien, au verset 26 à 38. Luc 1, 26 à 38. Le sixième mois, Luc 1, 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Eh bien, l'ange Gabriel révèle tout d'abord à Marie l'humanité de Jésus-Christ. Sa naissance est annoncée dans cette petite ville très modeste, à une fille modeste. L'ange visite Marie dans cette région du nord d'Israël qui s'appelle la Galilée. Nous lisons au verset 26, « Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Maintenant, la Galilée, déjà au départ, le nord était un territoire modeste. D'ailleurs, la Galilée n'était pas respectée par les gens d'Israël. En fait, c'était le pire endroit qu'on pourrait s'attendre qu'un ange vienne annoncer la venue du roi des rois, la venue de celui qui occupera le trône de David éternellement. Les Juifs de Judée, c'est-à-dire les Juifs du Sud, regardaient avec mépris les gens du Nord de la Galilée. Pire encore, les gens du Nord regardaient avec mépris leur propre ville, leur ville de Nazareth, qui était dans la région du Nord. Donc, Nazareth, c'était la méprisée. Vous vous rappellerez de cette parole de Nathanaël qui dira plus tard, et que lui-même vient de Galilée, il vient du Nord. Et il dira dans Jean 1, 46, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Maintenant, même si Jésus est né en fait à Bethléem, il a passé toute sa jeunesse jusqu'au début de son ministère à Nazareth. Il est né à Bethléem et pourtant, il n'a pas été appelé Jésus de Bethléem, mais plutôt Jésus de Nazareth. Il était vraiment un mépris. C'était un titre qui était méprisant. Même les chrétiens, plus tard, se feront appeler dans le livre des Actes la secte des Nazaréens. Encore mépris. Mais dans l'Ancien Testament, prédit la venue du Messie et les prophètes ont annoncé qu'il viendrait avec humilité et qu'il serait méprisé. Un passage, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, il y a plusieurs passages, plusieurs prophéties dans le livre d'Ésaïe, mais il y en a un en particulier qui parle de la région méprisée du Nord et comment de là sortira la gloire. Une prophétie que l'on trouve dans Ésaïe, chapitre 8, verset 23, qui dit ceci, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et Nephtali, le territoire justement du nord, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer. La région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. En effet, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Verset 23 dit, les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer. Voyez-vous, on méprisait tout le territoire de Zabulon et Nephtali. Vous pouvez voir sur la carte géographique, c'est dans le nord. Et regardez comment c'est loin de Jérusalem, qui était le centre, la capitale religieuse du pays. Il me semble qu'annoncer la venue du roi des rois aurait dû eu lieu là, en bas, dans le sud, en Judée, à Jérusalem, près du temple, reconnu pour être la présence de Dieu. Mais non, l'annonce est faite dans le nord, ce territoire qui était méprisé. La Galilée, c'est la nation, la confusion, le désordre. Il y a des Juifs, mais il y a des non-Juifs, il y a des soldats romains. Et sans arrêt, cette terre a été le lieu d'invasion, de guerre, de commerce. Et beaucoup de violence se déchaînait là-bas. C'est donc une ville qui est méprisée. Une ville inconnue, d'ailleurs, à l'époque, autrefois. Aujourd'hui, on parle de Nazareth comme une ville qui est bien connue, évidemment, à cause des chrétiens. C'est une place touristique. On veut visiter Nazareth. Mais à l'époque, c'était pas le cas. D'ailleurs, on voit pas la ville nommée nulle part dans l'Ancien Testament, ni dans la littérature juive, ni dans le Talmud, la Mishnah. Même Flavius Joseph, qui est un historien du premier siècle, n'en parle même pas. Une ville inconnue. Insignifiante, pas d'importance. D'ailleurs, le grand dictionnaire de la Bible décrit la ville comme une ville composée en partie de non-juifs, quoiqu'il y avait quand même plusieurs juifs. Mais la ville était reconnue pour être corrompue, sale, envahie par des soldats romains. D'ailleurs, les archéologues ont découvert qu'il y avait à peu près juste quelques douzaines de personnes, quelques centaines peut-être, à l'époque, parce qu'il y avait juste un puits à ce moment-là, donc tu ne pouvais pas vraiment être nombreux. Et curieusement, c'est à cet endroit-là, sale, corrompu, sans importance, que Dieu décide d'annoncer la naissance miraculeuse de son Fils. C'est d'ailleurs là que Jésus choisit d'annoncer sa parole et parler de son royaume. Pas à Jérusalem, pas à la capitale religieuse, non, dans cette région chaotique qui est Galilée. Voyez-vous, le miracle de l'incarnation annoncé dans cette petite ville insignifiante de Nazareth révèle qu'il vient en être humain avec humilité. Mais l'ange Gabriel annonce la naissance miraculeuse de Jésus, non seulement à cette ville, cette petite ville inconnue, insignifiante, mais aussi il est annoncé à cette jeune fille d'à peu près 12 ans. On se mariait jeune à l'époque, 12 ans à peu près. Il faut rappeler qu'il y avait à peu près trois étapes dans le mariage. À l'époque, il y avait cette entente, ce contrat. Les deux familles se rencontraient, principalement le père du jeune homme qui voulait marier la jeune fille, allait rencontrer le père de la jeune fille et parlaient ensemble et s'entendaient sur un montant à remettre à la famille du père de la future mariée comme dédommagement. C'est pas qu'on achetait la fille, mais on dédommageait parce qu'on comprenait la peine que l'on causait à la famille qui perdait finalement leur fille. Parce que la fille se joignait à la famille du monsieur, du mari. Donc, on voulait témoigner que l'on sympathisait, que l'on comprenait qu'ils perdaient leur fille. Donc, ça, c'était la première étape. Après ça, venait une seconde étape qui s'appelait le Kiddushin. C'est finalement les fiançailles. Mais encore là, fiançailles, c'est pas tout à fait pareil comme nous, parce que premièrement, rompre cette entente, c'était une entente légale, une fiançaille légale, ça te prenait une lettre de divorce pour rompre. Mais le couple ne restait pas ensemble, il n'y avait pas de relation sexuelle. On restait à part parce que le mari partait pour à peu près une période d'un an construire une maison pour assurer un foyer pour sa future femme. Et ce n'est juste que quand la maison était complètement construite et qu'il pouvait assurer la nourriture, un métier, une maison, que là, le père du monsieur pouvait donner le OK au jeune homme de dire « D'accord, la maison est prête, tout ça, il te manque pas trop de fenêtres, pas trop de portes, tout est beau, c'est correct, tu peux aller chercher ta femme. » Et là, on procédait au grand... à la grande cérémonie qui s'appelait le Huppah, qui était vraiment le mariage comme tel. Et là, les deux vivaient ensemble. Donc, on peut calculer que si une Marie a à peu près 12 ans, elle aura probablement, elle se mariera comme à la troisième étape, un an et quelques mois après. Donc, les filles se mariaient en 12, 13, 14 environ. Donc, c'était jeune, vraiment jeune. Mais à l'époque, c'est ce qui se faisait. Il n'y avait pas vraiment l'adolescence comme telle. Et là, voici donc Marie qui vient, qui est là. On pense qu'elle est probablement une fille qui n'a pas beaucoup d'éducation. Les filles ne s'éduquaient pas à cette époque-là. C'était pas dans la coutume, dans la tradition de l'époque. Une fille simple, mais certainement une fille consacrée qui aime Dieu. Et c'est à Marie que l'ange arrive et fait cette annonce de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Nous voyons au verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi toutes les femmes. » Alors, la salutation de l'ange dévoile que Marie fera l'objet d'une bénédiction toute spéciale. Toutes les femmes espéraient devenir la mère de celui tant annoncé dans l'Ancien Testament. Toutes les femmes espéraient donner naissance au Messie, au Sauveur qui devait venir et que les centaines de prophéties de l'Ancien Testament avaient annoncées. Alors l'ange lui dit, c'est toi, Dieu t'a fait cette grâce. Et une grâce veut dire une faveur non méritée. Ce n'est pas que Marie est plus importante que d'autres femmes. Il y avait d'autres femmes aussi consacrées, d'autres femmes de Dieu aussi à l'époque. Et elle-même va chanter dans le passage qui va suivre et elle se reconnaît pécheresse. Alors, c'est une femme, mais qui aimait Dieu. Et si l'ange est en train de dire, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi que tu aies cette grâce de pouvoir mettre au monde l'enfant Jésus. Alors, c'est une femme humble, une femme consacrée au Seigneur, et Dieu lui fait cette grâce d'avoir le privilège de donner naissance au roi de la terre. Marie est honorée, évidemment. C'est un privilège, c'est une grâce qui lui est faite. Et Dieu passe par-dessus la Judée, par-dessus Jérusalem, par-dessus le temple et se rend au nord dans la maison de cette jeune fille humble pour révéler son fils. Martin Luther fait la remarque suivante. Il dit, il aurait pu aller à Jérusalem et prendre la fille de Caïphe, riche, vêtue de broderies, accompagnée de sa suite, mais Dieu a préféré une humble fille venant d'une humble ville. En choisissant Marie, Dieu dévoile déjà l'humanité de son fils et commence déjà à démontrer le genre d'humiliation que son fils devra endurer tout au long de sa vie. Imaginez le Dieu du ciel dans la gloire qui quitte toute la gloire et vient humblement dans la forme d'un bébé vulnérable. Un bébé, c'est fragile, il prend la forme d'un enfant. Et Marie reçoit cette grâce. C'est vraiment une façon inhabituelle, tout à fait impensable, que de faire une telle annonce à cette jeune fille simple, humble, dans cette région du Nord, dans ce quartier inconnu. Et comment la naissance du Fils de Dieu viendra? À travers une vierge du nom de Marie. Alors, cet enfant sera humain, oui, 100% humain. L'ange Gabriel révèle l'humanité de Jésus, mais il annonce également sa fidélité. Parce que voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on a des centaines de prophéties depuis des siècles qui avaient été annoncées de la venue de ce Sauveur. Et lorsque l'ange arrive devant Marie et lui annonce la naissance miraculeuse de son fils, il était en train de dire, en fait, haut et fort, on peut compter sur Dieu. Dieu a fait plusieurs promesses dans les Écritures, et on peut compter sur lui. Les promesses que Dieu avait faites d'envoyer un Sauveur qui prendrait sur lui nos péchés, s'est réalisé et se réalise. Vous savez, nous trouvons des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue de Jésus. Et vous savez, on pourrait dire que du début de la Bible jusqu'à la fin, au dernier livre de la Bible, que vous preniez la première page de la Bible, ce qu'on appelle les cinq premiers livres de la Bible, qui s'appellent les livres de la loi, et qu'on continuerait jusqu'à la fin de la Bible, on verrait Jésus. Du début à la fin, on annonce la venue de Jésus, ou qu'il est venu et qu'il reviendra. Toute la Bible au complet pointe vers Jésus. Par exemple, si on prend les cinq premiers livres de la loi, les livres de la loi, on voit ici que la loi donne la fondation de Jésus. Les livres qui suivent, qu'on appelle les livres historiques, montrent la préparation de Jésus. Les livres poétiques, comme les psaumes, expriment l'aspiration de Jésus. Les livres prophétiques proclament l'expectative de Jésus. Les évangiles montrent le record historique de la manifestation de Jésus. Les actes relatent la proclamation de Jésus. Les épîtres donnent l'interprétation de Jésus. Et l'Apocalypse décrit la consommation de toutes choses en Jésus. Voyez-vous, la Bible au complet tourne ses regards vers Christ. Jésus est la clé de la Bible. Alors, lorsque l'ange Gabriel arrive à Nazareth et annonce la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, il est en train de dire, tu peux compter sur Dieu. Et nous-mêmes, lorsque nous vivons des choses dans nos vies, il faut nous rappeler que le même Dieu qui a fait le miracle, qui a accompli le miracle de l'incarnation, c'est notre Dieu et il nous accompagne. Nous pouvons donc faire confiance au Seigneur qu'il accomplira ses promesses lorsque Dieu nous promet qu'il prendra soin de nous et qu'il nous accompagne, qu'il est souverain sur toutes choses. Nous pouvons lui faire confiance. Il accomplira tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis. Il le fera en son temps comme il le veut, mais ses promesses s'accompliront. Alors l'ange Gabriel révèle l'humanité de Jésus, révèle sa fidélité, mais révèle aussi sa liberté, parce que pourquoi qu'il est venu? Pourquoi il vient? Il vient finalement pour prendre sur lui nos péchés afin de nous libérer de l'esclavage. Ce qui nous rend captifs, c'est le péché. Verset 30, Luc 1, 30, il est dit, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus qui est Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve. On pourrait dire l'Éternel libère. Et par Jésus, Dieu s'en vient nous libérer du péché. Maintenant, le message que lui livre l'ange Gabriel est un message qui avait été prédit depuis longtemps, bien avant. D'ailleurs, dans Jean 8, Jésus dit au chef religieux, ce qui suit, il dit, « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Voyez-vous, Jésus fait une déclaration assez impressionnante, assez remarquable. Il dit, « Abraham, et ailleurs, il va parler de Moïse et David, savait que mon jour viendrait. Il savait que Dieu allait accomplir quelque chose de grand. Il savait que Dieu allait sauver le monde à travers une personne. Mais voilà que Marie est la première personne à entendre son nom. Jésus qui signifie l'Éternel sauve. Elle est la première à recevoir le message que le salut aura lieu à travers un bébé qui naîtra à Bethléem et qui s'appelle Jésus. Il est le Seigneur qui vient pour nous sauver. Elle est la première à entendre l'Évangile comme on le connaît aujourd'hui. Maintenant, pourquoi Jésus vient sur terre? Pour nous libérer de nos péchés. Il est venu afin de payer le prix pour nos péchés sur la croix. Et c'est ce que nous voulons célébrer ce matin à la fin du service avec la Sainte Sainte. Nous voulons nous rappeler ce sacrifice qui a eu lieu à la croix. Il est venu comme un enfant vulnérable, fragile, afin de vivre et mourir et crucifié sur la croix, afin de nous libérer. Romains 8 dit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, me libère de la culpabilité, tout le poids, le fardeau du péché qui était sur nos épaules. Il nous libère puisqu'il les prend sur son épaule, sur ses épaules à la croix. Alors, par Jésus, nous connaissons la liberté. Jésus est venu pour nous libérer. Cette annonce de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ nous révèle son humanité, sa fidélité, sa liberté, mais aussi sa divinité. Nous lisons verset 31. « Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de David éternellement et son règne n'aura pas de fin. » L'ange fait la description de Jésus-Christ. Jésus est le Fils du Très-Haut. Il est né d'une fille. Donc, il est humain. Mais il est né d'une fille vierge en vertu du Saint-Esprit. Il est donc également divin. Il est un homme et il est Dieu. Maintenant, Luc va passer plusieurs moments à travers son livre pour élaborer et expliquer ce que ça signifie. Mais Jésus aussi est le roi éternel, nous dit le verset 32. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Maintenant, Marie ne comprend pas. Elle demande, au verset 34, elle dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Ici, l'ange va dire quelque chose d'intéressant. Il dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Le mot « couvrir », c'est intéressant, employé dans l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour le temple, pour la présence de Dieu. Il est employé à nouveau dans le Nouveau Testament, mais cette fois-ci avec Jésus sur la montagne de Transfiguration. Vous vous souviendrez lorsque Jésus prend trois disciples avec lui et monte sur la montagne, et nous pouvons lire dans Matthieu 17 ce qui suit. « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. » Le même mot ici, les couvrir, et c'est la présence de Dieu. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. La nuée lumineuse enveloppe Jésus et ses disciples, et c'est la présence de Dieu. Maintenant, l'ange Gabriel annonce à Marie que l'enfant qui vient sera conçu par le Saint-Esprit. En d'autres mots, Dieu est son Père. Marie est sa mère, mais Dieu est son Père. Donc, Jésus est à la fois homme, 100% homme, il est humain, mais en même temps, il est divin en ce que Dieu est son Père. L'ange ajoute un détail bien important. On passe vite là-dessus, c'est un petit détail, mais c'est tellement clé, tellement important. Verset 35, l'ange va dire ceci. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, l'ange continue, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, l'ange rattache cette déclaration que Jésus est le Fils de Dieu avec la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsqu'on parle à certains témoins de Jéhovah, ils vont nous dire, tu sais, oui, Jésus est appelé le Fils de Dieu, mais dans l'Ancien Testament, les rois sont appelés des fils de Dieu. Mais attention, un frère, Don Carson, que vous connaissez peut-être, a écrit un livre, a fait une grosse recherche sur l'expression « fils de Dieu ». Et il a donné les résultats de sa recherche dans un livre écrit qui s'intitule « Jesus, the Son of God ». Et tout le livre tourne autour de cette expression-là. Et il arrive avec une découverte vraiment intéressante. Il dit, dans l'Ancien Testament, oui, les rois sont appelés les fils de Dieu. Mais c'est vraiment intéressant de savoir et d'apprendre qu'ils ne sont appelés fils de Dieu uniquement qu'au moment où ils accèdent au trône. Lorsqu'ils prennent le trône, ils s'assoient sur le trône. C'est là qu'ils sont appelés. Ils deviennent des fils de Dieu dans ce sens-là. Un titre honorifique, un titre qui leur est donné au moment où ils prennent possession de leur trône. Contrairement à Jésus, où il n'est même pas encore né. Mais l'ange dit, parce qu'il est né miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit, il est conséquemment appelé le Fils de Dieu. En d'autres mots, il est le Fils unique de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. C'est pourquoi, dit l'ange, le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Et nous lisons dans Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Jésus n'est pas comme les fils de Dieu de l'Ancien Testament. Il est le, avec un gros L, le Fils unique de Dieu. Comment le Fils unique de Dieu peut-il s'incarner dans un enfant? Eh bien, l'ange va répondre. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? rien, verset 37, n'est impossible à Dieu. Écoutez, c'est un ange qui connaît bien Dieu. C'est un ange. Il connaît Dieu. Vous savez, il visite le ciel, il demeure pas loin de Dieu, et lui qui connaît Dieu dit, je vous le dis, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on n'a pas besoin de se souvenir de ça lorsque tu te retrouves dans une situation qui te semble impossible? Rappelle-toi, rien n'est impossible à Dieu. Quelle devrait être notre réponse devant le miracle de l'incarnation? Bien, on voit cette réponse chez Marie, verset 38. Elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Je suis ta servante, je suis à ton service, je m'offre à toi. » Et pourtant, Marie, c'était gros pour Marie. Elle n'était pas encore mariée et ça avait des implications. Puis elle a dû commencer à réfléchir puis dire, et elle réfléchissait. C'est une femme très logique en passant. Un mot qui est utilisé dans l'original, là, c'est le mot pour mathématiques, comptable. Là, elle faisait son CA pendant quelques secondes, puis elle raisonnait, puis elle calculait, puis elle était là, elle dit, ouf. Puis, c'est une femme très rationnelle. Et elle est en train de regarder. Elle regarde, elle considère le prix. Elle raisonnait en elle-même. C'est un terme employé pour la comptabilité. Elle faisait le point, elle réfléchissait. Et il y avait un prix à payer pour elle parce qu'elle savait que, comme une femme pas encore mariée, selon la troisième étape, sa grossesse apparaîtrait comme une infidélité. Et c'était lourd de conséquences sur le plan social. Mais elle accepte la volonté de Dieu, même la souffrance qui s'en vient. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Dieu va l'accompagner. Et c'est ça la clé, frères et sœurs. Dieu nous accompagne, Dieu est toujours avec nous, il est là. Marie accepte que Dieu la place dans des circonstances difficiles, car elle sait que Dieu l'accompagne. Marie est le modèle de ceux qui font l'expérience de la naissance du Sauveur dans leur vie. C'est un modèle pour nous. Voilà où Dieu veut nous emmener devant le miracle de l'incarnation. Qu'on s'offre à lui, qu'on s'abandonne à lui, puis par la foi qu'on dit, Seigneur, il se peut que tu m'emmènes dans des situations qui me semblent impossibles, mais Seigneur, je m'offre à toi, je m'abandonne à toi, je veux être ton serviteur parce que je sais que tu m'accompagnes et tu es en train de réaliser ton plan. Je te fais confiance, sans réserve. Marie accepte. Et devant le miracle de l'incarnation, nous aussi, nous pouvons dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Alors, le message que nous livre le miracle de l'incarnation, c'est de s'offrir au Seigneur. Offrons-nous à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous semble impossible? Peut-être tu vois un péché, tu as tombé tellement souvent dans ce péché, tu te dis, c'est impossible que Dieu me pardonne. Ça n'a pas de bon sens, je suis tombé tellement souvent. Est-ce que tu ne vois pas de solution à ton mariage? Tu ne penses pas retrouver la joie ou l'amour? Les souffrances dans ta vie te semblent impossibles à vivre? Eh bien, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Prends courage. Il est le Dieu de la naissance miraculeuse. Aucun péché n'est trop grand pour que Dieu ne pardonne. Aucune montagne n'est trop haute pour qu'il ne la bouge. Aucune tempête n'est trop sombre pour qu'il ne la calme. Aucune douleur n'est trop forte qu'il ne la soulage. Aucune relation n'est trop brisée qu'il ne la réconcilie. Aucun problème n'est trop grand pour que Dieu ne le surmonte. Aucun besoin n'est trop important qu'il ne peut répondre. Vous savez, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il a porté les fardeaux du monde sur ses épaules, on sait qu'il va nous soutenir. Cette semaine, je relisais l'histoire de Corrie ten Boom et elle raconte, vous savez, Corrie ten Boom, une boom qui a vécu le camp de concentration des nazis, raconte, après ça, elle a été libérée, tout ça, là, elle a commencé à donner des bibles, distribuer des bibles dans des pays où c'était illégal de distribuer des bibles. Les pays de l'Est et tout ça, et un jour, elle se retrouve devant les douanes, et puis elle a une valise pleine de bibles, et là, elle est nerveuse, elle commence à prier, parce qu'elle veut emmener clandestinement toutes ses bibles dans la valise, et elle a peur que le douanier voit les bibles, fouille dans la valise et tout ça, et finalement confisque la valise et peut-être avoir des conséquences finalement. Et là, elle commence à prier, elle demande à Dieu, Seigneur, tu as promis dans ta parole que ta parole serait distribuée protège-moi et fais en sorte que le gars, le douanier, ne voit pas la valise, qu'il laisse passer, tout ça. Et tout d'un coup, elle vient de finir sa prière, elle est en train de prier, puis elle voit sa valise, puis elle raconte son témoignage, qu'elle voyait comme un aura, comme une lumière autour de sa valise, elle voit ça. Puis là, la valise avance, puis elle arrive devant le douanier, puis le douanier, il est là, puis il regarde la valise, puis il s'arrête, puis il fait ça de même. Puis il prend la valise, puis il la laisse passer. Puis les Bibles sont rentrés dans le pays, comme ça, le pays de l'Est, où c'était illégal, et Dieu avait mis sa main. Écoutez, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Absolument pas. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, là, j'étais dans le ministère, puis on commençait, et puis on n'avait pas d'argent, je pense que c'était 6 000 par année avec 3 enfants, puis c'était, il y avait rien. J'ouvre la porte de frigidaire, puis ça, il y avait un cocon puis une tomate, puis c'était notre souper. Fait qu'on regarde ça, le frigidaire, puis tout ça, j'étais là, je dis, mon ami, là, il y avait rien, tu sais, presque rien en tout cas. Fait que je me rappelle, je venais de lire une histoire dans une biographie d'un gars qui avait prié, qui avait remercié le Seigneur d'avance pour la nourriture que Dieu allait lui envoyer. Et puis, je dis, bon, mais ça a marché pour lui, ça devrait marcher pour moi. Fait que je me suis mis à genoux, la porte était ouverte, je me rappelle, la porte du frigidaire était ouverte, puis je regardais à l'intérieur du frigidaire. Puis j'étais là, regardais, il n'y a pas grand-chose. Fait que là, je regardais, puis j'ai dit, « Seigneur, je te remercie pour la nourriture qu'on va avoir. » Puis j'ai dit, « Ah, j'aimerais vraiment ça aller au restaurant. C'est-tu correct de demander ça au Seigneur? » Là, c'était pas mal précis, mon affaire. Fait que je dis, « Au nom de Jésus, Amen. » Je ferme la porte de frigidaire. Ding dong. Hey, je vous dis, là, viens fermer la porte de frigidaire. J'arrive, j'ouvre la porte, quelqu'un est avec un don, il me donne un don, puis il me dit, tiens, on avait à cœur de vous aider, voici un don. Alléluia, on est allé au restaurant, puis c'est Dieu qui nous a envoyé au restaurant. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Répétez-le très fort à votre voisin. Dites-le à votre voisin très fort, là. Amen. Amen. OK, c'est bon. Alors, on invite les gars en arrière, les gars affectés à la distribution de la Sainte-Seine. On veut louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors, on va distribuer les éléments. Si vous êtes né de nouveau, vous avez passé par les eaux du baptême, par immersion, vous êtes invité à prendre cette Sainte-Seine ce matin.